France Info. L'actualité des médias, c'est avec vous Didier Siamour. Après l'émission des chiffres et des lettres dont on parlait hier, c'est un autre jeu de France Télévisions qui fait l'objet d'interrogations. Un indice sur votre écran. C'est Motus, on l'aura peut-être reconnu.
Eh bien oui, et donc on a hier entendu son animateur se faire des déclarations au journal Le Parisien.
Je vais quitter France Télévisions. C'est pas facile à dire, évidemment. Je vais arrêter Motus. Après, on va dire 30 ans, on va arrondir. 30 ans de bonheur absolu. Mais je me dis qu'à un moment donné, bon, comme disait la chanson, il faut savoir dire stop.
Et donc il a dit stop, hein, Thierry Beccaro, qui présente donc le jeu Motus chaque jour vers 10h55 sur France 2 depuis 1990, un programme qui est regardé quand même presque par 600 000 téléspectateurs en moyenne. Et puis l'animateur arrêtera également la présentation du magazine Télématin, dont il assurait les remplacements. Il se tourne vers le théâtre, puisqu'il jouera dans une pièce à la rentrée, une pièce qui partira en tournée pendant un an.
Est-ce que l'émission va continuer ?
Ben, aucune information à ce sujet. On sait quand même que France Télévisions veut réduire le nombre de jeux sur ses antennes, puisqu'il y en a 9 chaque jour sur France 2 et sur France 3.
Et nous recevons à présent, rien à voir avec Motus, le directeur éditorial d'Arte France, Bruno Patino, qui vient de publier « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention ».
Bonjour Bruno Patino.
Bonjour.
Alors, dans votre ouvrage, vous dites que le poisson rouge, en fait, c'est chacun d'entre nous un poisson rouge, dans le sens où notre capacité d'attention se limiterait à 9 secondes, donc un tout petit peu plus que cet animal, qui se situerait, lui, à 8 secondes.
Oui, c'est une étude qui avait été menée à bien par Google et en fait c'est une image utilisée pour montrer que petit à petit on est devenu un peu dépendant de nos écrans et des sollicitations qu'ils nous font. Et qu'on se retrouve un peu comme ce poisson dans un bocal. Le bocal c'est nos écrans, on s'y est plongé nous-mêmes, mais il y a des mécanismes qui nous maintiennent dans le bocal.
Et est-ce que cette faiblesse de notre attention, elle est liée justement à ces changements de comportement liés à l'explosion du numérique ?
Oui, il y a des changements de comportement, il y a des pathologies, j'essaye de les décrire dans le livre, des pathologies, alors on est tous plus ou moins atteint par ces pathologies, hein, qui peut être la peur d'être oublié, l'anxiété de profil, enfin il y a tout un catalogue de pathologies qui diront beaucoup de choses à ceux qui liront, mais surtout ces pathologies-là sont le produit, et le produit non pas d'une technologie, non pas du numérique, mais du modèle économique de certaines plateformes.
Cette attention de 9 secondes en moyenne, Bruno Patino, face aux écrans, est-ce qu'elle a des conséquences dans notre vie, par exemple, dans notre façon de parler là ? Est-ce que je décroche plus facilement quand je vous écoute que si j'avais existé il y a une vingtaine d'années.
En fait, elle a des conséquences dans notre
secondes,
vie.
Ça fait pas beaucoup, hein.
Dans notre vie individuelle et dans notre vie collective. Dans notre vie individuelle déjà, parce que comme vous l'avez dit, ces plateformes, elles sont en train de conquérir du temps qu'on consacrait à autre chose, qui peut être l'amitié, la lecture, l'étude, le sommeil, l'amour, peu importe. Et donc, finalement, cette attention-là, ces sollicitations qui nous sont données par ces plateformes-là pour capter notre attention, ben, elles hachent ce temps qu'on consacrait à autre chose. Et donc, bien évidemment, tout notre rapport à ces activités-là auxquelles on se consacrait pleinement a changé. Et de façon collective, cette espèce de dépendance aux écrans que j'essaye de décrire a évidemment modifié énormément de choses, puisque ce modèle d'économie de l'attention suppose une efficacité plus grande de certains messages. Et en tout cas, l'efficacité est d'autant plus grande qu'elle va être émotionnelle. Et donc, entre guillemets, ça polarise notre vie collective. Donc, c'est toute notre sociabilité qui est changée par ces écrans.
Alors, on comprend que ces opérateurs ont envie, souhaitent nous garder le plus longtemps possible connectés sur leur plateforme. Hein, et pour ça, ils développent notre addiction au contenu qu'ils hébergent, qu'ils propagent, en se basant, vous le disiez, sur notre goût pour l'émotion qui prime sur le rationnel, lui. Est-ce que ça explique justement le succès des fake news aujourd'hui ?
Alors, ça n'est pas le seul schéma explicatif, mais on peut l'expliquer de façon assez simple, en fait. C'est-à-dire que le chiffre économique de ces plateformes se développe d'autant plus, comme vous l'avez dit, que notre attention est captée. Pour capter notre attention et la capter face à une activité qu'on est en train de faire, il faut nous solliciter et créer un lien de dépendance. Mais il faut aussi que les messages soient le plus partagés, longtemps, rapidement et j'allais dire au plus grand nombre de gens possible. Et on constate très simplement que plus un message est outrancier, plus il va agir non pas sur votre réflexion, mais sur votre réaction, plus il va provoquer de la colère, du rire, de l'émotion pure, plus vite vous allez le partager, et plus il va être partagé. Donc il va être plus efficace économiquement. Et donc oui, ça explique d'une certaine façon ce qu'on appelle la polarisation de l'espace public, c'est-à-dire que non seulement chacun petit à petit s'enferme dans une bulle, mais que cette bulle petit à petit nous donne une dose supplémentaire de ce à quoi nous croyons. Et donc on s'en trouve enfermé dans nos propres croyances, et ces croyances-là sont extrémisées. Donc les fausses nouvelles, c'est un produit, pas uniquement de cela, mais aussi de ce mécanisme-là.
Mais ce que vous expliquez quand même dans votre livre, c'est que ces fake news ont une efficacité économique supérieure à une information dite sérieuse.
Oui, je pense que c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que toute la thèse du livre, en dehors de la description des pathologies qui sont les nôtres, c'est que ce dysfonctionnement-là, il est dû au modèle économique. Et que ce modèle économique, donc, qui est l'économie de l'attention, ben, il est associé à une efficacité de message ou pas. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, plus c'est émotionnel, plus c'est efficace. La fausse nouvelle dont on parle, qui peut être aussi un message outrancier ou autre, quand il est purement émotionnel, il est économiquement plus efficace qu'un message rationnel. Et comme souvent, il coûte beaucoup moins cher à faire, faites le calcul économique, quelque chose qui ne coûte pas cher à faire rapporte beaucoup plus d'argent que quelque chose qui coûte cher à faire et qui va rapporter beaucoup moins.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut réguler les plateformes ? Vous savez que vendredi, Emmanuel Macron, le président, reçoit Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Facebook. Il doit faire un bilan, justement, sur toute la politique menée par Facebook. Est-ce qu'il faut réguler ces plateformes ? Et si oui, comment ?
Ça veut dire qu'il faut rajouter un troisième volet à la discussion que nous avons avec les plateformes aujourd'hui. La première discussion, elle est fiscale, tout le monde la connaît. La deuxième, elle commence à arriver au niveau européen, c'est la sécurité des données. Mais le troisième volet de la discussion, c'est l'impact sur nos vies. Et l'impact sur nos vies, encore une fois, il n'est pas lié à la technologie, il ne va pas se régler tout seul parce qu'on apprendrait à un moment donné à utiliser ces outils, mais il est le produit d'un modèle économique. Et donc oui, on va devoir se pencher un peu sur la limite du modèle économique. Je suis absolument convaincu que dans quelques années, on regardera les années que nous occupons aujourd'hui comme les années de l'économie numérique sauvage, et qu'on va petit à petit la réguler.
La civilisation du poisson rouge, c'est donc à découvrir chez Grasset. Merci beaucoup.